Monsieur Paul Vitamara Massimango, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes professeur à l'université de Kisangani. Vous êtes également directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani. Vous venez de publier aux éditions Harmattan à Paris, c'est en France, un ouvrage intitulé « Scolarisation du peuple Enya en RDC ». Études diagnostiques et prospectives. En dehors de vos nombreuses publications scientifiques, dans les revues de l'Université de Kisangani et d'autres revues internationales, notamment en Suisse, nous assistons là à la publication de votre premier ouvrage classique. C'est quand même un motif de satisfaction au terme d'un travail aussi harassant que stressant.
Motif de satisfaction, oui, car non seulement c'est un premier ouvrage, mais aussi les maisons où nous publions ces revues et ouvrages sont des maisons de renommée scientifique internationale. C'est donc une fierté pour nous d'être connus et lus par les autres scientifiques au monde.
Monsieur le professeur, à propos de cet ouvrage, vous avez choisi de mener une étude sur la scolarisation des Enya, une des nombreuses ethnies vivant dans la ville de Kisangani. Vous auriez pu mener cette étude sur un autre groupe ethnique dans la même ville, les Koumous, les Mbolé, les Lokélé ou encore les Topoké. Pourquoi avez-vous choisi particulièrement les Enya?
Monsieur le journaliste, notre attention sur ces peuples était attirée par la proportion très élevée des fils et filles Enya en âge scolaire dans des activités informelles, telles que le cirage des souliers dans les lieux publics, la vente des boutiques mobiles, la vente de certains produits directement consommables tels que bananes, arachides, etc. Il faut ajouter à cela le nombre relativement réduit, si vous faites attention, des cadres intellectuels Enya dans la gestion des affaires publiques à Kisangani.
Et vous affirmez, monsieur le professeur, que les enfants Enya sont moins scolarisés. Là, vous les comparez certainement à ceux d'autres ethnies qui fréquentent les mêmes établissements qu'eux dans la même entité. Quelles sont alors les proportions de leur scolarisation dans la ville de Kisangani?
Je préfère répondre à cette question en distinguant le niveau primaire et le niveau secondaire. Au niveau primaire, en comparant la rive gauche, il faut déjà vous dire ici, la rive gauche, c'est le quartier Ouaguenya, où vivent essentiellement les Enya, et nous allons le comparer à la rive droite. La rive droite, c'est le quartier Ilembie et quartier Kisangani, où il y a un mélange de tribus. Alors, on trouve que le milieu Enya par excellence, c'est-à-dire le quartier Ouaguenya, beaucoup d'indicateurs sont au rouge. À titre d'exemple, en moyenne, il y a 22 élèves par classe dans les écoles du quartier Ouaguenya, contre 40 à la rive droite. Le taux brut de scolarisation, c'est-à-dire la proportion d'élèves, la proportion d'enfants à l'école par rapport à ce qui devrait être à l'école. Nous avons 45% d'enfants sont à l'école à la rive gauche contre 87% à la rive droite. Autrement dit, 55% d'enfants à la rive droite, à la rive plutôt gauche, ne vont pas à l'école contre 13% seulement la rive droite. N'oublions pas que la rive gauche, c'est là où habite essentiellement le peuple Enya. Et un autre élément, si vous prenez des 100 élèves qui commencent leurs études primaires, 3 seulement obtiennent leur certificat d'études primaires à la rive gauche, contre 27 à la rive droite. Même si 27, c'est une situation grave, mais contre 3, c'est encore plus grave. En analysant les tribus des élèves dans ces écoles, monsieur le journaliste, sur 2104 élèves enquêtés, dans les deux rives bien sûr, 758 seulement, soit 38%, c'est-à-dire n'oubliez pas ici que nous sommes dans le milieu Enya. Donc 758 élèves, soit 36% sont Enya, contre 64% des enfants des autres tribus. C'est une situation quand même grave. Au niveau secondaire, dans ces milieux, il faut déjà vous le dire, il y a à peine une école secondaire organisée. Nous avons par conséquent pensé que les enfants Enya qui obtiennent leur certificat poursuivent leurs études secondaires dans les établissements périphériques à ces milieux, c'est-à-dire les écoles secondaires organisées à Lubunga, Makiso, Kisangani et Kabambi. Alors, ici, sur 1873 élèves enquêtés, 62 seulement, soit 3% d'élèves qui sont inscrits au secondaire sont des tribus aignants, contre 97% des autres tribus. Voilà un peu quelques indicateurs qui montrent que la situation est grave en milieu aignant.
Donc la situation est grave, comme vous le dites, il y a une véritable déperdition scolaire des enfants aignants. Quels sont alors les facteurs à la base de cette situation?
Les facteurs à la base de cette situation peuvent se regrouper à trois. Il y a les facteurs socioculturels, qui vient en première position, les facteurs socio-économiques et les facteurs socio-familiaux. Parmi les facteurs socioculturels, qui nous considérons comme un facteur prépondérant, nous pouvons citer les rites d'initiation, qui est une période où l'enfant aignant est soumis à des obligations strictes et de multiples épreuves dans le but de le préparer à la vie adulte et à la société. On peut aussi citer parmi les facteurs culturels le mariage. Les jeunes hommes, très souvent sortis du rite d'initiation, doivent se marier, doivent chercher une jeune fille et se marier. Et chercher la jeune fille même de force. Et un autre élément culturel, c'est la pêche, qui se fait nuit et jour tout le long de l'année. Et cette pêche est obligatoire pour tous. Il y a la pratique de jeu-là traditionnel, communément appelé kabob, pour les garçons, et kebo pour les filles. Ils se font pendant les week-ends et lors des deuils. Ce sont là quelques facteurs culturels que nous pouvons citer. Mais il y a aussi des facteurs économiques. Puisque le jeune homme est marié en quittant les rites d'initiation, le jeune homme est ainsi contraint de pratiquer la pêche apprise lors de l'initiation. Il faut le dire, là on n'apprend pas seulement aux enfants la pêche, mais aussi à tisser les nasses et d'autres métiers. Or, à cause non seulement de la croissance démographique, mais aussi à cause de la non-réglementation de la pêche, les poissons en milieu aignant sont devenus rares. D'où les jeunes couples sont obligés d'amorcer les activités informelles. C'est ce qui peut expliquer, entre autres, leur présence dans les activités informelles. Et il faut souligner aussi les facteurs socio-familiaux. L'analphabétisme de la majorité des parents, de façon que ça joue aussi beaucoup. Nous pouvons citer le nombre élevé d'enfants dans les familles. Il faut, pour être considéré comme un homme, un milieu aignant, il faut être père d'une famille nombreuse. Il y a aussi le divorce, qui est un phénomène très fréquent, le divorce des parents dans ces milieux. Un phénomène très très fréquent dans ces milieux. Voilà, monsieur le journaliste, en quelques mots, les quelques facteurs que nous avons développés dans cet ouvrage.
Les enfants aignants ne vivent pas quand même isolés dans leur milieu. Ils sont installés dans la ville de Kisangani, où ils vivent quand même avec les autres. Et ne peuvent-ils pas se départir de certaines mentalités qui freinent leur développement, puisque nous sommes dans un milieu urbain?
Messieurs les journalistes, il faut vous dire qu'en dépit des multiples influences subi par les aignants de la part tour à tour de leurs voisins arabisés et d'autres tribus, ce peuple a fondamentalement gardé son identité culturelle. Ceci s'observe singulièrement par quoi? La langue aignant. Cette langue est parlée par tous les membres de la tribu. Et c'est à pleine ville de Kisangani où prédominent les langues swahili et lingala. Deuxièmement, la résidence aignant. Il est rare de trouver un aignant résider dans d'autres communes de la ville que celle de Lubunga et Kisangani. Et troisièmement, il faut ajouter ce dont j'avais déjà soulevé si haut, la pratique du rite d'initiation, alors qu'elle a disparu dans plusieurs tribus. Il y a aussi le mariage précoce et il y a la pêche et la fameuse pratique de jeu traditionnel.
Oui, monsieur le professeur, avec tous ces facteurs, on comprend bien que les enfants aignants ne peuvent pas évoluer. Mais puisque les aignants vivent quand même dans la ville de Kisangani, est-ce qu'ils ne peuvent pas essayer de suivre l'exemple d'autres ethnies qui vivent à côté d'eux pour essayer de essayer d'aller un peu de l'avant, essayer d'évoluer normalement comme les autres ethnies?
Oui, ils peuvent le faire. Mais pour bien le faire, je préfère peut-être vous donner à ce niveau-là les stratégies pour arriver à scolariser ces peuples. Il y a des stratégies. Je crois qu'il ne faut pas condamner, il ne faut pas dire d'emblée que ce peuple ne peut pas être scolarisé. Ce peuple peut être scolarisé. Mais pour être scolarisé, il faut que l'école, quelque part, puisse aussi s'adapter à la culture aignée. Et je vais peut-être vous le dire un peu plus tard, lorsque nous allons peut-être, vous allez faire allusion à des stratégies pour scolariser ces peuples.
Est-ce que les conditions matérielles sont quand même réunies pour favoriser leur scolarisation?
Oui, les conditions matérielles sont réunies. D'ailleurs, dans l'ouvrage, au niveau, parce que l'ouvrage est intitulé « Études de diagnostic et prospective ». Au niveau du diagnostic, nous avions procédé à l'analyse des ressources matérielles et des ressources humaines. Et les ressources matérielles, ici, il faut voir les infrastructures. Les infrastructures sont là. Et même les écoles qui entourent les milieux aignants, ce que nous avons appelé ici les écoles périphériques dans la commune de Lubunga, Kisangani, Kabondo, il y a des écoles qui ont de bonnes infrastructures. Et les ressources matérielles sont aussi disponibles. Parce que si vous voyez par exemple le taux de qualification des enseignants, c'est de 95% à milieu, c'est 95% d'enseignants qui enseignent dans ces écoles sont qualifiés. Donc les ressources humaines et les infrastructures sont disponibles.
Alors, la situation est grave, nous l'avons dit. Quelle stratégie est adoptée pour essayer de relever les défis?
Pour ce qui concerne les stratégies, la plus grande stratégie adoptée pour améliorer la scolarisation à Mirie Enya, comme d'ailleurs c'est le cas chez certains peuples au Congo réticents au système scolaire, parce que les Enya ne sont pas seuls, on peut citer les Pygmées, on peut citer d'autres peuples, si vous circulez au Congo, vous trouverez des peuples qui sont réticents au système scolaire. Donc, la stratégie est de fonder l'école sur l'ethno-éducation. Qu'est-ce que c'est que l'ethno-éducation? L'ethno-éducation consiste à organiser le système éducatif à fonction des besoins, à fonction des intérêts et à fonction des aspirations de ces peuples. Par exemple, pour le cas du peuple aignan, organiser le système d'une seule vacation dans les écoles du milieu aignan. Les cours commencent les avant-midi, par exemple, de 9h à 14h. Ainsi, les enfants peuvent pêcher dans les après-midi et installer leur filet le soir pour les récupérer le matin avant 9h, au lieu que le cours commence à 7h30.
Et on peut, par exemple, aussi prévoir les vacances pendant la période où ils préfèrent leur initiation culturelle.
Effectivement, même si la période d'initiation arrive après chaque 12 ans, faire en sorte que la période de vacances doit correspondre à celle d'internement des enfants dans la forêt pour éviter la déperdition. Bon, une autre stratégie, on peut créer des écoles équipées, organisant les sections de pêche et des métiers. Ça peut permettre de répondre tant soit peu à leurs aspirations. Se débarrasser aussi des législations discriminatoires pour les filles. Par exemple, l'expulsion des filles enceintes ou des filles mères dans nos écoles ou dans les écoles du milieu.
Et que dire des parents qui ne sont pas du tout scolarisés, qui ne comprennent pas l'importance des études de leurs enfants?
Et à ce niveau-là, nous avions souhaité qu'on puisse créer des centres d'alphabétisation pour ces parents. Et à travers ce centre d'alphabétisation, l'alphabétisation doit être fonctionnelle. On doit passer par la sensibilisation des parents pour la nécessité de la scolarisation de leurs enfants. Mais pour les enfants qui ont déjà abandonné, créer des écoles de récupération pour ces enfants ayant abandonné. on peut chercher des gens, des centres qu'on peut créer dans le milieu, où on prend des spécialistes qui peuvent former les autres enfants en cordonnerie, en menuiserie, en art, etc. Parce que ce sont des grands artistes.
Monsieur le professeur, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.